Bonjour à tous, je renoue cette semaine avec mon genre préféré et je sais que vous êtes nombreux à l'aimer aussi. Un excellent policier signé Harlan Coben. Dois-je encore vous présenter l'auteur ? Pas sûr. Lui qui a rencontré le succès dès sa première publication avec Sans un adieu, enchaîne les romans et il a signé son tout dernier l'an passé, en 2020, avec L'inconnu de la forêt. Celui que je vous propose de découvrir cette semaine est sorti en 2012. Ne t'éloigne pas est disponible en format poche depuis 2014. Meghan Pierce est mariée et maman de deux enfants. Sa vie est tranquille, peut-être un petit peu trop. Et pour mettre un peu de piment dans son existence, elle retourne au Crème, un bar à stripteaseuses dans lequel elle travaillait il y a 17 ans sous le nom de Cassie, histoire de se rebaigner dans l'ambiance de sa vie passée. En discutant avec Lorraine, la barmaid toujours en place, en quelque sorte la maman des filles du bar, elle apprend que son client régulier, Stewart Green, a refait surface. Il était un homme violent à son égard et elle l'a vu la gorge tranchée dans les ruines des fours d'Atlantic City. C'est d'ailleurs cette vision qui a emmené Meghan à fuir sa vie sulfureuse, persuadée que son amoureux de l'époque, Ray Levin, un photographe reporter de talent, était à l'origine de ce crime. Dans le même temps, on apprend qu'un sale gosse, Carlton Flynn, client du Crème et lui aussi violent avec les filles, a disparu. Est-il mort ou pas ? Pour l'heure, rien ne permet de le savoir puisqu'aucun corps n'a été retrouvé. Et Broom, flic de son état, enquête sur cette affaire, comme il enquêtait 17 ans plus tôt sur celle de Green, dont le corps reste lui aussi toujours introuvé. Ce qui intrigue Broom, c'est la date de cette disparition. Le 18 février, la même que 17 ans plus tôt, jour de Mardi Gras. Quant à Ray Levin, devenu une loque imbibée d'alcool et gagnant quelque argent en étant un paparazzi pour des gens en mal de gloire, il célèbre chaque 18 février depuis 17 ans en prenant des photos des ruines du four. À l'endroit même où il a eu cette vision d'horreur, de la gorge tranchée de ce salaud de Green, là où il devait retrouver l'amour de sa vie, Cassie. Là où il s'est dit qu'elle avait pété un plomb en assassinant son bourreau. Sans aucun doute, la raison pour laquelle elle a disparu. Mais ce 18 février, parmi ces clichés, il y en a un avec Carlton Flynn dessus. Il décide de l'envoyer aux flics de manière anonyme afin d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais il y en a un qui ne compte pas que sur les flics pour retrouver Carlton. C'est son père et il engage un duo de jeunes mercenaires surnommés Ken et Barbie qui partent sur les traces du fiston disparu et laissent derrière eux des corps inertes et bien amochés. Meghan, quant à elle, ne se sent pas concernée par cette disparition et retourne chez elle, un peu chamboulée d'avoir revu Ray. Mais Ken et Barbie sont sur ses talons. Ils ont le sentiment que cette nana peut être liée au gosse disparu. « Bonsoir, Monsieur Flynn. » Delphine se retourna lentement. Ken et Barbie lui sourirent et la température chuta de 10 degrés de plus. « Vous avez retrouvé mon fils ?»« Pas encore, Monsieur Flynn. »« Alors vous voulez quoi ?»« Nous avons un dilemme, Monsieur Flynn, » dit Ken. « Un dilemme moral, » ajouta Barbie. » Del savait que, plus tôt dans la journée, Ken et Barbie avaient localisé une effeuilleuse qui se faisait sauter par Carlton. La police avait déjà interrogé cette fille, mais sans en tirer grand-chose. Ken et Barbie avaient eu plus de succès. « Vous connaissez une ville qui s'appelle Castleton ?» demanda Ken. Del réfléchit. « C'est dans le nord, hein ? Et quelqu'un du nom de Pierce, David ou Meghan Pierce ?»« Non. Ils ont quelque chose à voir avec mon fils ?» Ken et Barbie lui firent le rapport de leurs activités du jour. Ils n'expliquèrent pas comment ils avaient obtenu ces informations et Del ne posa pas de questions. Il se borna à écouter tandis que son cœur saignait et se durcissait tout à la fois. « Et maintenant ?»« Normalement, nous suivons la piste, » répondit Barbie comme si elle récitait un rôle. « Dans le cas présent, cela voudrait dire interroger Monsieur et Madame Pierce. Vous êtes venu demander mon autorisation ?»«
Oui. »«
Vous croyez que les Pierce savent quelque chose ?»« À mon avis, la femme, oui. » dit Ken. Elle a rencontré le lieutenant Broom aujourd'hui, et ce, en présence d'un avocat, cet avocat étant Harry Sutton.
Donc elle a des choses à cacher, renchérit Barbie.
Del repensa à sa visite au poste de police. Quoi que cette Meghan Pierce ait pu leur raconter, Broom s'en est servi. Il est allé au parc avec une équipe technique et ils ont trouvé du sang. Il y eut un silence. Les Pierce sont-ils des enfants ? Demanda Del.
Oui, deux.
Tâchez de les maintenir en dehors de ça.
C'était, il le savait par expérience, le geste le plus charitable qu'il puisse consentir.
Meghan n'était pas experte en arts martiaux, mais quand bien même elle l'aurait été, cela n'aurait servi probablement à rien. L'espace d'un éclair, alors que la pointe du couteau se rapprochait du creux de sa gorge, elle devint autre chose qu'un être humain évolué. Elle devint son cerveau reptilien. Instinctivement, sans réfléchir, Meghan leva le bras pour empêcher la lame de la toucher à la gorge.
Celle-ci s'enfonça profondément dans son avant-bras. Megan laissa échapper un cri. Elle luttait pour sa vie. Si son assaillant récupérait le couteau, elle mourrait. Bien que focalisée sur l'arme, Megan entrevit du coin de l'œil des mèches blondes et sut que c'était la femme qui avait tué Harry Sutton. La survie et la rage, c'était tout ce qui comptait à présent. La survie, c'était compréhensible, mais en même temps, elle était furieuse. Furieuse contre les tueurs qui s'étaient acharnés sur le pauvre Harry. Furieuse contre Dave qui l'avait abandonné. Contre Ray qui s'était laissé couler. Elle s'en voulait de n'avoir pas su profiter du présent, d'avoir tenu à exhumer le passé, de n'avoir pas compris que toute existence humaine comporte sa part d'insatisfaction. Et surtout, elle était folle de rage contre cette saleté de blondasse qui essayait de la tuer. Eh bien, elle pouvait toujours se brosser. Megan poussa un cri, un hurlement primitif, déconcertant. La blonde commit l'erreur de vouloir s'agripper au couteau, mais le mouvement inattendu lui fit perdre l'équilibre. Juste un peu, ce qu'il fallait pour qu'elle trébuche et se penche en avant. Mais ce n'était pas fini. Blessée à son tour, la blonde parut trouver un second souffle. Megan bascula, étourdie, sa joue toucha le bitume. Ses yeux se fermèrent. Un faisceau lumineux balaya son corps immobile, peut-être les phares d'une voiture qui arrivait. La blonde hésita, juste le temps qu'il fallait. Sans rouvrir les yeux, Megan fit glisser la main le long de l'asphalte. Elle savait où était le couteau. La blonde bondit sur elle pour l'achever, sauf que c'était Megan qui avait le couteau maintenant. Elle roula sur le dos, le manche du couteau contre le sternum, la pointe en l'air. La blonde atterrit dessus. La lame s'enfonça profondément dans son ventre. Barbie ne survit pas à cette blessure. Quant à Ken, il suit la piste du crème où il rencontre Lorraine qui en sait plus sur le gosse qu'elle ne le dit. À la fin du service, il la suit, chez elle, pour lui tirer les vers du nez. Mais ce ne sera pas si simple. Quant à Broom, il découvre des éléments qui l'amènent à rejoindre Lorraine, chez elle. Et c'est là qu'il comprend tout.
L'actu des bibliothèques.
C'est à la médiathèque de Saint-Imier que je vous invite à vous rendre pour découvrir l'exposition des carnets de voyage imaginaire de Michel Sainte. Vous avez jusqu'au 25 mars pour les découvrir et participer chaque mercredi au cycle d'ateliers « Dessine ton carnet de voyage » ouvert aux adultes et aux enfants de plus de 8 ans. Pensez à vous inscrire au préalable.